Vous avez dit Moloch ? Dans la Septante, forme grecque de l'Ancien Testament d'où découle la Vulgate, apparaît le nom de Moloch pour désigner un dieu païen de rang suprême. Ainsi, dans ce verset des Actes, au chapitre 7, verset 43, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Moloch est la transcription du phénicien Molech, lui-même des formations de Melech, roi. Molech ou Moloch est un dieu cruel qui réclame des sacrifices d'enfants qu'on doit brûler vifs. C'est pourquoi le Lévitique, par la voix de Yahvé, recommande, chapitre 18, verset 21, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch », le rite étant pratiqué à Jérusalem dans un lieu sinistre appelé Gehinnom, vallée d'Hinnom, de là a dérivé le mot « Géhenne » que nous verrons un peu plus tard. Extrait du livre « Expression biblique expliquée » de Paul Desallemands et Yves Stalloni, paru aux éditions Chêne. Vous avez dit un bon apôtre ? Le mot « apôtre » qui signifie « chargé d'un message » avait un sens large et désignait les disciples du Christ, mais aussi le Christ lui-même et d'autres émissaires de la bonne parole. Jésus en restreint le sens quand il désigne en Luc 6, 13, les 12 disciples qu'il va charger d'un apostolat, répandre la bonne parole alentour. Tout le monde connaît le mauvais apôtre qui va trahir et se pendre. Mais qui est le bon apôtre ? Il serait vain de chercher dans la Bible car cette mention n'y figure pas. Dans l'usage populaire, l'expression en est venue à désigner, toujours ironiquement d'ailleurs, une personne qui prétend à la vertu. Elle s'associe toujours dans les esprits à la fable de La Fontaine, le chat, la belette et le petit lapin. La belette et le petit lapin, se disputant un terrier, décident de prendre pour juge un chat qui passe pour homme de bien. Grippe Minot, un chat vivant comme un dévot. Un chat vivant comme un dévot ermite, un saint homme de chat. Lequel homme de bien tranche le débat d'une manière brutale, Grippemo, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Vous avez dit « qui sème le vent récolte la tempête ». L'expression devenue proverbiale doit mettre en garde l'imprudent qui a déclenché un processus négatif. Le mal peut se retourner contre lui. Elle prend son origine dans la Bible et plus précisément dans Osée au chapitre 8, verset 7, où se lit la formule « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête ». La métaphore s'applique à certains Hébreux qui se sont détournés de Yahvé pour adorer le veau d'or. Ils encourent un châtiment proportionnel à leur faute, la destruction de leur ville, en l'occurrence Samarie. L'adage s'adresse à tous les apprentis sorciers. Vous avez dit « à la sueur de ton front ». Tout serait la faute du serpent, le plus rusé de tous les animaux, selon Genèse au chapitre 3, verset 1er. Ève, il est vrai, s'est faite un peu complice en acceptant de goûter aux fruits défendus. Le résultat ne se fait pas attendre, pour la femme la punition d'un enfantement douloureux, pour l'homme la condamnation au travail pénible. La traduction peut être différente de celle ci-dessus, Genèse 3, verset 19. « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol ». André Chouraki traduit par « à la sueur de tes narines ». C'est la fin du paradis. Ève et Adam sont tous deux chassés du jardin d'Éden, découvrant à la fois leur nudité et l'existence du bien et du mal. L'expiation n'est toujours pas achevée. L'interprétation selon laquelle le travail fut imposé à l'homme comme un châtiment est parfois discutée. En cultivant la terre, Adam conquiert une dignité qui le distingue des animaux réduits à brouter. Par son acte, il marque aussi un changement de civilisation, le passage d'une ère de cueillette à une ère d'agriculture. La sueur a son mérite. Vous avez dit être le sel de la terre. En deux endroits, Jésus pose une question à ses disciples, Matthieu 5, verset 13 et Marc 9, verset 50. « Si le sel n'est plus salé, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ?» Et il leur dit, en Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Le propos est complété au verset suivant « Vous êtes la lumière du monde ». Il est évident qu'il ne faut pas entendre ici le mot « terre » dans le sens de « glèbe » car y semer du sel ne serait pas mirifique pour les récoltes. Il semble que l'on puisse comprendre la formule ainsi « Vous êtes ce qui donne la vie, l'esprit, le sens de l'absolu et de l'infini ». Comme le sel, vous êtes une quantité minime par rapport à l'ensemble, mais c'est grâce à vous que l'humanité ne régressera pas vers l'animalité et trouvera tout au contraire la voie de Dieu. L'expression en dehors du contexte religieux est parfois employée en direction de tous les porteurs de ce que Bergson appelait une morale ouverte.